Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, voici une nouvelle émission de Par ici les sorties, encore sans sortie, mais toujours avec notre invité de l'instrumentarium de Chartres, pour poursuivre notre petite série d'émissions dont vous avez déjà entendu la première le mois dernier je crois. Donc cette première émission était focusée sur les origines de l'instrumentarium et beaucoup plus ancienne que celle-là, les origines de tous les instruments représentés dans la cathédrale de Chartres et répertoriés, voire même restitués par l'instrumentarium et notamment par son président André Bonjour. Bonjour André.
Bonjour Yvan.
Alors, nous avions évoqué lors de la première émission un pan important déjà représenté par, je crois, c'était 135 instruments à cordes oui. que tu as retrouvés dans la cathédrale.
Oui, oui.
Et qui proviennent, si j'ai bien appris ma leçon, du 12, 13e et 14e siècle.
Oui.
Voilà, ouf, j'ai bien écouté. Nous resterons cette fois encore dans le cœur de l'Europe, n'est-ce pas, à Chartres, avec les instruments de la cathédrale. Et aujourd'hui, j'ai compris que tu nous parleras des 152 instruments avant.
Oui.
Oh là là, que tu as retrouvés essentiellement dans la clôture du chœur, je crois.
Le plus grand nombre, oui.
Oui, d'accord, ok. Alors, on sait que les instruments à cordes étaient pour la louange de Dieu, qui est alors le centre du monde, et les instruments à vent, qui, je crois, étaient avec une vocation humaniste plus grande, c'est-à-dire que l'homme devient le centre du monde, avec la notion du plaisir qui apparaît,
la fête.
Le chant, la danse, la guerre. Alors, nous sommes dans quel siècle, là, aujourd'hui?
Ah ben aujourd'hui, quand on va parler des instruments à vent, on va beaucoup parler d'instruments à vent qui sont dans la clôture du chœur.
Oui.
Et là, c'est le XVIe siècle.
XVIe siècle.
La Renaissance, c'est l'humanisme.
D'accord, donc on va faire un bond quand même.
Mais on va commencer par quelques instruments quand même du XIIe.
Ah d'accord, ok. Bon, allons-y, jouons à Jules Verne.
Voilà, alors, pour les instruments à vent, qu'on appelle aujourd'hui aérophones, on va commencer par les instruments à hanches, parce que ce sont les plus anciens depuis que Homo sapiens est arrivé. On sait qu'il a joué avec, en faisant vibrer des herbes, en soufflant dans des tuyaux. Enfin bon, on sait que ça existe. Et on sait que l'anche est majoritairement du roseau, qui est quelque chose que l'on trouve oui. partout. Même s'il y a des instruments avec des hanches métalliques, comme par exemple l'accordéon ou l'harmonica, mais il faut savoir que l'accordéon est né en 1835.
Plus tard, on n'était pas au Moyen-Âge.
Alors, l'hanche, elle peut être simple. Elle est simple comme l'hanche de l'instrument qui s'appelle une muse et qui est sculptée au portail royal, ou l'hanche peut être double, comme pour les chalmis ou au bois qui sont présentés dans la clôture du chœur.
D'accord.
Alors, un instrument est intéressant parce qu'il a les deux. C'est la cornemuse.
Ah.
Alors, la cornemuse, c'est quoi? Au départ, c'est une muse, c'est-à-dire un instrument avec une hanche simple,
oui.
auquel on a ajouté un sac, qui sera donc une réserve d'air.
D'accord.
Ce qui fait que le musicien se fatiguera beaucoup moins, puisqu'il
oui,
a
bah,
une
oui,
réserve
oui.
d'air.
Oui, parce que c'était quand même fatigant de gonfler les joues, de jouer, de marcher en même temps, parce que c'était une procession.
Oui, ou
donc,
la danse.
Voilà. Donc le sac, c'est effectivement une invention très logique. Mais alors, pourquoi on l'appelle corne pour un instrument qui est en bois?
Alors, ça s'appelle la cornemuse parce que le verbe cornemuser est apparu pour la première fois chez un moine bénédictin en 1223, Gauthier de Coincy, tout simplement parce qu'on disait « corner la muse ».
D'accord, donc ça n'a rien à voir avec une corne.
Absolument.
Ah d'accord, c'est juste un verbe.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Exactement.
Okay.
C'est comme la vielle à roue, vielle, V-I-E-2-L-E,
oui.
ça vient d'un vieux verbe français, vieler, qui voulait dire jouer d'un instrument à cordes, point.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Okay.
Donc la cornemuse. Alors, pour enrichir l'instrument, parce que c'est toujours le même problème pour les musiciens et les facteurs, qu'est-ce qu'on fait pour enrichir un instrument? Eh bien, on va inventé un autre instrument que la première cornemuse, c'est-à-dire qu'on va ajouter un deuxième instrument dans le sac, mais cette fois-ci, pour qu'il soit différent au niveau du timbre, oui. On ne va plus mettre une hanche simple, on va mettre une hanche double. Donc déjà, ça fait deux sons différents.
D'accord, sauf qu'il ne peut pas jouer sur deux instruments en même temps quand même.
Voilà, sauf que ce qui est l'instrument, le tuyau, les doigts, etc., ça n'intervient que sur la muse,
d'accord.
Donc l'hanche simple. Donc on n'intervient pas sur l'hanche double, donc l'instrument sonne et corne toujours la même note.
C'est ce qu'on appelle le bourdon.
Voilà. Hein. Et le bourdon se retrouve dans toutes les musiques du Moyen-Âge. Et par exemple, dans les chants religieux, on entend souvent... Et donc, voilà, le bourdon, c'est en général quelque chose qui permet d'asseoir la musique sur laquelle, au-dessus de laquelle, on va pouvoir composer et inventer un certain nombre de choses. Mais on retrouve ça dans le jazz, et y compris chez les Pink Floyd. Mais ça, c'est une autre émission.
Mais je pense que là, quand même, il y avait une question d'économie aussi, parce que ça permet d'avoir un bonhomme et on a l'impression d'entendre plusieurs instruments.
Oui. Moi, je dirais plus que c'est une question d'enrichir l'instrument.
D'accord.
Et on fait de la musique et on essaie de...
C'est plus noble.
Non, ça va ensemble. Ouais. Mais c'est aussi d'enrichir la musique, d'avoir un instrument. Et puis, il faut prendre en compte les différences de matériaux. Et c'est là où s'intéresser aux instruments de musique, c'est pas que les instruments, que les matériaux. Ça touche aussi à la société. Parce qu'il est évident que si on prend dans la travée 2... de la clôture du chœur, il y a une cornemuse qui est faite avec un sac, c'est une vessie de vache.
C'est normal en Beauce.
Et avec un seul chalumeau, une seule muse, voilà,
d'accord.
C'est tout. Donc un seul son. Mais dans la travée 11, il y a une autre cornemuse avec un sac, mais cette fois-ci c'est une vessie de porc, un peu plus petite, avec un chalumeau et un bourdon. Donc il y a deux sons.
Mais comment on sait dans un vitrail ou sur une statue que c'est une vessie de vache ou une vessie
exact,
de porc ?
Exact, il n'y a pas de mode d'emploi, ce n'est pas écrit dessus. Non, c'est simplement parce que la travée 2 présente un instrument où le sac est plus gros que le sac de l'autre. Donc la vessie de vache, c'est plus gros qu'une vessie de porc. Voilà, c'est pour ça.
Okay.
Dans la travée numéro 1, par contre, là où il y a Joachim avec ses amis bergers, il y a une autre cornemuse. Mais quand on la regarde de près, on s'aperçoit que c'est une cornemuse qui est faite avec une peau qui a été cousue. C'est un instrument travaillé. Et on sait que ces instruments étaient faits avec de la peau de chèvre et que les buffoirs, les chalumeaux, les bourdons étaient dans des arbres fruitiers.
D'accord. Sachant que le buffoir, c'est dans lequel on
c'est
souffle.
C'est le petit tuyau dans lequel on buffe.
On buffe, on souffle.
Donc.
D'accord, ok. J'apprends le français, là.
En Savoie, il y a un soufflet qui s'appelle le buffadour. En Corrèze aussi.
Ah oui, d'accord.
Vous savez, c'est des mots. Voilà. Donc, il y a dans la cathédrale cette représentation de cornemuse.
Et si on les écoutait un petit peu, ces cornemuses.
Alors, là, on va faire jouer les oreilles.
Ah.
On va d'abord entendre la vessie de vache. Écoutons.
La vessie de vache.
Maintenant, écoutons ce qu'on appelle aujourd'hui une cornemuse, celle qui est faite en peau de chèvre.
D'accord.
Musicalement, c'est plus riche parce qu'il y a deux sons.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, mais c'est pas la... La vache ou la chèvre
le sac
qui fait la différence.
Non, c'est les hanches. Hein. C'est là où
naît
le timbre.
Oui, d'accord. Okay.
Alors, on va faire un petit arrêt, une petite pause musicale, mais on va en profiter pour continuer à jouer avec les oreilles.
Oui.
Donc, vous allez faire attention, les auditeurs. Vous allez entendre d'abord une harpe qui a une sonorité particulière. Elle est du 15e siècle. Elle était équipée de harpions. Ce sont des petites tiges métalliques à la base des cordes, ça fait zinguer les cordes. C'est une façon d'amplifier la harpe. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Et puis le jeu, ben, il est simple. Vous allez entendre une première cornemuse, puis une deuxième. Ben, à vous de deviner si c'est la vessie ou la cornemuse qui commence.
Oh là !
Ça s'appelle « Adieu mes amours ». Alors, je le signale parce que des fois, ça s'écrit « Adieu, au revoir ». Mais des fois, ça s'écrit aussi « Adieu ». Mais c'est la même origine, dit-on.
Ouais,
allons-y.
Ça ne veut pas dire la même chose.
Donc, d'accord. On a entendu d'abord la vessie, puis la cornemuse, hein, qui a tendance un peu à couvrir
les voix,
les autres.
Hein. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est très chantant quand même, c'est très, très dansant.
Absolument. C'est... Et alors, l'intérêt, c'est que ça explique aussi pourquoi, au Moyen-Âge, il y avait deux catégories d'instruments, les bas instruments, parce qu'on ne les entendait pas fort, on va en entendre les instruments à cordes, et les hauts instruments.
Le hautbois.
C'est ceux qu'on entend sonores.
Oui.
C'est le même sens que dans... baisse basse ou...
Hein. Oui, c'est ça.
Voilà,
oui.
C'est
d'accord.
Pas fort.
Donc là, on va parler d'autres instruments avant.
Alors, les instruments en bouchure. Hein, alors, l'embouchure, ben, tout le monde sait ce que c'est. Oui. C'est ce qu'on met contre les lèvres et puis on va faire vibrer. D'accord. Alors, on a les cors. Alors, les instruments en bouchure sont souvent des instruments d'appel.
Oui.
Alors, la chasse... Avec les
cors,
il y a le vitrail de Saint-Eustache, le siège de Pampelune et l'olifant de Roland dans le vitrail de Charlemagne.
Ah, oui, d'ailleurs, pour moi, le cor, c'est vraiment l'instrument qui, dans mon esprit, hein, au moins, est rattaché à la fonction d'appel.
Oui, oui.
Un peu d'ailleurs comme la trompette, et qui se destine plutôt à une utilisation militaire.
Oui.
Alors, on sait que déjà, c'est 11e, 12e siècle, Roland, il sonne le cor, je crois, dans une chanson de Charlemagne, qu'on a d'ailleurs dans le vitrail, hein,
Que,
quand il revient d'Espagne.
Il appelle au secours.
Oui, il appelle au secours, oui, même si c'est remplacé par une bataille plus céleste, je crois, dans la chanson. Et la trompette, pour moi, c'est au même plan. Alors, le côté curieux est que... Bon, on retrouve déjà de la trompette dans l'Antiquité égyptienne, notamment, je crois. Mais on va le retrouver au XIVe, XVe siècle, dans les mains des anges. Pourquoi ?
Tout simplement parce que, contrairement aux vieillards de l'Apocalypse qui ne sont pas des musiciens, quand on va mettre des instruments dans les mains des anges, on va faire des anges musiciens. Donc, à partir de là, les anges vont jouer de tous les instruments qui existent. Il y a la chapelle de la Vierge à la cathédrale du Mans, qui est absolument magnifique. Et c'est du 15e siècle. Et les anges, à partir de ce moment-là, jouent de tous les instruments.
D'accord.
Donc, aussi bien de la trompette.
Hein. Oui, trompette et la trompe.
La trompette. Alors, les trompes, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus long.
Oui, c'est impressionnant.
Les trompes ont une connotation un peu religieuse, puisque c'est des trompes qu'on va trouver dans et puis dans les jugements derniers. La rose ouest de la cathédrale de Chartres, les anges sonnent d'un trompe. Au porche sud, les anges sonnent de la trompe.
D'accord.
Et puis, les trompettes, c'est aussi pour l'accueil des personnages importants. Et puis les tournois, c'est-à-dire des choses avec une certaine solennité, une grande solennité. Alors ce qui est intéressant à la cathédrale de Chartres, c'est qu'en dehors des trompettes qui sont y compris dans la chapelle Vendôme, il y en a une qui est intéressante dans la clôture du chœur, c'est une trompette à coulisses.
Ah oui.
C'est-à-dire, c'est l'ancêtre
du trombone.
Du trombone, on l'écoute.
Ah, super.
Et pour ceux qui connaissent le trombone, la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est la coulisse que déplace le musicien.
Oui.
Là, c'était le reste de l'instrument qu'on déplaçait.
Oh là !
Donc, ça suppose une technique particulière.
Ah oui, oui, oui. Et une souplesse quand même, hein ?
Et oui, 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 oui. Moi, j'ai essayé, mais bon, j'en dis pas plus.
Mais donc, là, on a quand même un instrument qui a été restitué, donc manifestement, parce que sinon on ne pouvait pas l'entendre.
Ben non, sinon on ne pouvait pas l'entendre.
Et qui date de quel siècle, parce que
c'est... Ah ben c'est le 16e siècle, hein, on est dans la clôture du chœur, toujours.
Hein. Ah oui, quand même.
Ah oui, oui, toujours, oui, on est dans la clôture du chœur.
D'accord.
Non, non. Okay. Alors, toujours avec embouchure, eh bien, on a la flûte traversière,
hein,
qui demande une particularité... Enfin, une façon de souffler. Alors, flûte traversière, on en a deux beaux exemples dans la cathédrale. Un qui est dans une version médiévale à l'église Saint-Pierre, enfin la chapelle Saint-Pierre plutôt, et une dans la cathédrale, dans le virage, là, vous savez, de la clôture du chœur.
Oui, c'est ça, oui.
Et qui elle est restituée en noyer. On va écouter la flûte traversière en sureau.
D'accord, parce que c'est un instrument quand même qui paraît moderne, mais qui existe déjà depuis l'Antiquité. Hein.
Bien sûr. Écoutons. Voilà. Et quand on écoute la trompette et qu'on écoute cet instrument, on comprend bien la différence entre bas et haut instrument.
Oui,
il n'y a pas de problème. Alors après, on a d'autres instruments avant, bien sûr. Et cette fois-ci, on va aller mettre en bouche ce qu'on appelle les becs, comme les flûtes, hein, etc. Où là, c'est le courant d'air qu'on envoie va mettre en mouvement la colonne d'air de l'instrument. Alors, dans la clôture du chœur, ce qui est assez fantastique, c'est qu'on a surtout des flûtes dites à une main qui ont comme caractéristique de n'avoir que deux trous.
Oui.
Et donc, la question, c'est comment on fait avec deux trous pour faire toutes les notes.
Alors, sur la trompette.
On va faire une petite... Voilà. Il n'y en a pas sur la trompette, mais on fait plusieurs notes quand même. Alors, petite parenthèse acoustique vite faite. C'est pour rappeler à tout le monde que quand on entend un son... En fait, on entend la superposition de plusieurs sons qu'on appelle des harmoniques.
Oui.
Je ne rentre pas dans les détails. Une autre image, c'est quand on voit la lumière dite blanche. En fait, c'est le résultat de plusieurs lumières de couleurs.
Voilà.
Hein, donc, voilà. Donc, on entend des harmoniques. Et le musicien qui joue de la flûte à une main a une technique qui lui permet, en soufflant plus ou moins fort... de faire entendre les harmoniques.
Voilà.
C'est pour ça que ça fonctionne.
Mais donc, les flûtes à une main, et c'était quand même des sacrés musiciens, parce qu'en même temps, ils faisaient de la percussion avec l'autre main.
Alors, c'est typique, puisqu'il y en a de représentés dans la cathédrale, hein, dans la clôture du chœur, c'est ce qu'on connaît en Provence, hein, c'est-à-dire que d'une main, on joue de la flûte, et de l'autre main, on frappe un tambour.
Oui, c'est ça, oui.
Bien sûr, oui.
Il faut avoir une sacrée coordination.
Oui, mais il y a très très longtemps qu'Homo sapiens s'est adroit.
C'est ça.
Voilà. Alors, il y a également d'autres idées qui vont dans le même sens, c'est comment enrichir le son. Alors, au lieu d'avoir un tuyau, Ben, on va en mettre plusieurs. C'est la flûte de Pan.
C'est la flûte de Pan.
Voilà. Qui s'appelait Frestel
Frestel
au Moyen-Âge.
C'est joli, ça. Ouais,
c'est joli.
Ça,
hein,
fait,
voilà.
Ça fait bijou.
Et flûte de Pan qui porte un nom différent suivant les pays.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, bon, c'est un instrument quand même très ancien. On peut dire que c'est du néolithique. Hein, avec une symbolique forte, hein, quand même, parce que, bon, déjà dans la Bible, avec la scène de l'adoration des bergers, ou David, qui s'en servait pour accorder sa harpe. C'est curieux, d'ailleurs. Mais ça fait aussi penser à Syrinx et à Mallarmé, bien sûr, en France, et qui, dans son après-midi du faune, dit, si je me souviens bien, « Tâche donc, instrument des fuites ». J'aime bien cette expression,
d'ailleurs. Le courant d'air.
Oui, le courant d'air pour flûte de Pan, c'est bien. « À ma ligne Syrinx, de refleurir au lac où tu m'attends. » Je trouve ça très joli.
Oui, oui, oui. Mais c'est très, très ancien. Et, oui. Et la flûte de Pan, c'est l'instrument numéro un dans la mythologie grecque. C'est clair.
Oui, Pan, oui, 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 oui. On le retrouve un peu partout, hein, parce qu'en Roumanie ou en Moldavie, on a le naï. C'est plus récent, mais bon, quand même.
En Amérique du Sud, chaque pays donne un nom différent aux flûtes de Pan.
Oui, voilà. C'est super. Ouais.
Alors, toujours dans la même idée d'enrichir en mettant plusieurs tuyaux, eh bien, on a l'orgue portatif.
Oui.
Parce que c'est ça. Alors, il y a deux orgues de portatifs à la cathédrale de Chartres, un au porche nord et un à la travée 11 de la clôture du chœur, où il y a une rangée de 7 tuyaux, qui est un nombre un peu particulier. Pour restituer cet instrument, on a mis 2 rangées pour avoir 14 notes différentes. Ah. Et on a fait faire deux restitutions. Pourquoi ? Parce que Didier Guiraud, un Français, lui a choisi les tuyaux ouverts et un soufflet derrière qui est horizontal.
D'accord.
La deuxième restitution, c'est un Allemand, Marc Stahl. Lui, il a choisi les tuyaux fermés et un soufflet vertical. Alors, quelle est la différence ? C'est encore de l'acoustique et pas de la musique. Quand un tuyau est bouché, la vibration qui part du sifflet monte, bute contre le bouchon et revient. Donc on double la vibration.
Oui,
donc on met une note à l'octave de plus grave.
Oui, oui, oui.
Donc l'orgue avec des tuyaux bouchés est de toute façon plus grave qu'un orgue avec des tuyaux ouverts.
Ah, c'est
voilà.
Rigolo ça.
C'est la raison pour laquelle on a ça. D'accord. Alors, à ce propos, je vous propose d'entendre un peu ce qu'on appelle un organetto, c'est-à-dire le petit orgue portatif qui se promenait.
C'est la même que Sainte-Cécile porte dans
ses mains. Encore que des fois, Sainte-Cécile porte un orgue à elle, un orgue positif.
D'accord.
Alors, la différence, elle est simple, c'est qu'à force d'ajouter des tuyaux à l'orgue portatif, on ne pouvait plus le porter, donc on l'a posé.
Ah oui.
Et il est devenu l'orgue positif. Tout simplement.
Oui, c'est ça.
C'est la seule raison.
Oui, qui est devenu le grand orgue après.
Voilà,
dans les églises.
Alors, on va entendre une pièce, j'adore le nom, « Et donc venez-vous, Madame Lucette ?» où on va entendre d'abord une flûte. Là, il faut ouvrir les oreilles, ça va assez vite, mais on entend bien.
Ouais.
D'abord une flûte, puis on entend l'organetto, puis on entend une deuxième flûte qui répond. C'est une pièce du XVIe siècle de Pierre Moulu. Voilà. Alors, il nous reste à parler quand même d'une troisième grande famille d'instruments.
Ben oui, quand même. Oui.
Hein, les percussions, même si elles sont les moins nombreuses dans les cathédrales, il n'y en a que 31.
D'accord.
Alors, je veux commencer par l'instrument emblématique, quand même, tenu par la statue emblématique de la musique, qui s'appelle Musica au portail royal. ce que l'on appelle le tintinnabulum et qui a Chartres à trois cloches. Alors, je vous passerai sur les détails. Sachez, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun fondeur qui sait faire des cloches du XIIe siècle. C'est la raison pour laquelle on avait demandé les notes do, ré, mi, et que le fondeur de la fonderie Bollé à Saint-Jean-de-Bray a eu le courage, la franchise et l'honnêteté de nous dire « je ne sais pas faire ». Et il a eu raison, puisque vous allez entendre d'abord un ré, puis un sol, puis un si bémol qui n'est pas très juste.
Ah oui.
Voilà. Parce que les cloches d'aujourd'hui n'ont plus la même forme. Et les fondeurs d'aujourd'hui savent faire les cloches d'aujourd'hui.
D'accord.
Ça, c'est pour les cloches. Ensuite, il y a...
Mais je voudrais quand même dire quelque chose sur les cloches. Parce que pour moi, la cloche, c'est quand même la voix de Dieu qui est jouée par les anges. Bon, qui joue do, ré, mi ou qui joue ré, sol, si bémol, on s'en fiche un peu. Mais la cloche, c'est également l'indicateur du temps.
Oui.
Et là, c'est d'autres cloches, plus grandes, mais utilisées par l'Église et ensuite par les seigneurs.
Bien sûr.
On a les beffrois et bien plus tard, les pendules et autres horloges.
Bien sûr.
Mais je pense que la sonnerie des cloches qui annoncent les heures canoniales, en bas du vitrail, notamment des signes zodiaques. On va pouvoir y revenir peut-être dans une prochaine édition.
J'espère.
D'accord, ok.
Voilà. Oui, simplement, je voudrais signaler quand même dans la chapelle Saint-Piat ce qu'on appelle des nacaires, qui sont des paires de nacaires. Et comme au Moyen-Âge, on utilisait les trois matériaux, nous avons restitué les trois paires. En terre cuite, avec des bols. Alors là, une nacaire, c'est un bol recouvert d'une peau. Donc, il y a en terre cuite, il y a un bol en cuivre, et puis il y a les bols en bois. Les peaux sont des peaux de bouc, en général. Alors, on va entendre, parce que c'est subtil, mais c'est là où la richesse de la musique s'entend. On va d'abord entendre les bols en cuivre. Écoutez bien. On va maintenant entendre les bols en bois. Et voilà, ça prouve que les matériaux sont importants.
Oui.
Ce sont les mêmes pots, mais ce ne sont pas les mêmes bols.
Ah, ce sont les mêmes pots.
Voilà, des pots de chèvre.
Oh là là.
Deuxième exemple, dans le vitrail du fils prodigue, il y a une danseuse qui a un tambourin carré. On a fait refaire les deux qui existent. Donc, vous allez d'abord entendre le tambourin qui a une seule peau.
Oui.
Et puis, on va entendre un tambourin qui a deux peaux. Et à l'intérieur, entre les deux peaux, on a mis ce qu'on appelle un timbre pour enrichir. Ici, c'est un grelot.
D'accord.
On ouvre ses oreilles, on écoute d'abord une peau. Écoute maintenant deux pots avec le grelot. Et pour finir, le tambour. Mais le tambour avec dessus la peau une cordelette, comme la caisse claire. Et écoutez, on entend bien la cordelette qui vibre. Et voilà.
C'est magnifique. Hein.
Voilà. Alors, je crois qu'on est appelé à se revoir dans une troisième émission.
Oui, oui, oui. Moi, je pense que dans une troisième émission, on va conclure là, mais dans une troisième émission, on va faire la visite radiophonique de la cathédrale parce que tu nous as tellement parlé de tous ces instruments. Maintenant, on veut pouvoir les voir tranquillement. Merci beaucoup, André, et je dis à la prochaine fois. En attendant, on rêve.
En attendant, une danse Anello.
Super.